One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm getting hacked. It's moving too fast.
Qu'est-ce qu'on veut faire?
Prendre le contrôle du radar. Au fait, on peut vraiment faire ça ou c'est juste un exemple?
On peut prendre le contrôle d'un frigo si on veut.
Pourquoi on ferait ça?
Pour détruire 6 mois de recherche dans le labo pharmaceutique.
Après la cyberattaque de 2 mutuelles Viamedis et Almeris qui concernent 33 millions de Français, c'est au tour de l'hôpital d'Armentières.
L'ANSSI vient de publier son panorama de la cybermenace 2023. Cette nouvelle édition est l'occasion de faire un point sur les menaces constatées l'an passé, qu'il s'agisse des groupes de cybercriminels ou du type d'attaque. Il en ressort que 2023 a encore été une année chargée d'un point de vue cyber. Rançon, vol de données, recherche de notoriété et même espionnage, les intentions derrière les pirates ont été nombreuses. Il faut aussi noter l'impact du contexte géopolitique mondial. Guerre en Ukraine, dans plusieurs pays d'Afrique, en Israël, tensions entre la Chine et les États-Unis. La multiplication des conflits semble avoir fortement impacté le monde virtuel. Par exemple, sans faire d'attribution pour autant, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a malgré tout mis en avant la Chine et la Russie, ainsi que d'autres États comme la Corée du Nord. Une chose est sûre, les acteurs étatiques impactent les cybermenaces. Enfin, en 2022, en France, le nombre de cyberattaques réussies contre des organisations publiques et privées a atteint 385 000 pour un coût de 2 milliards d'euros. Et selon IBM, le coût moyen d'une violation de données en 2023 s'élève à 3,75 millions d'euros. Les entreprises de cybersécurité, elles, affirment à plus de 70% être impactées par la pénurie de talents, ce qui n'arrange en rien la situation cyber du pays. Alors au final, comment était 2023? Quelles étaient les menaces? Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour 2024? Réponse tout de suite avec Benjamin Terrasson, journaliste à Siècle Digital. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Salut Benjamin.
Salut Grégoire.
Alors Benjamin, t'étais récemment à une conférence de presse qui portait notamment sur le panorama de la cybermenace 2023 édité par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, je le rappelle. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi sert l'ANSSI et à quoi sert ce panorama ?
Tout à fait. Alors, pour l'ANSSI, pour commencer par le début, c'est l'agence qui s'occupe de la cybersécurité des organisations, on va le dire comme ça, les plus importantes en France. Donc, ça va être évidemment tout ce qui est beaucoup lié à l'État, les grosses collectivités territoriales, les hôpitaux notamment, c'est eux qui vont intervenir quand un hôpital se fait toucher. C'est aussi les entreprises considérées comme stratégiques qui sont dans l'énergie, dans la logistique, enfin dans des secteurs considérés comme stratégiques. Et donc, depuis 3 ans, il me semble, ils font ce fameux panorama de la cybermenace où ils exposent un peu tout ce qu'ils ont vu au cours de l'année. Ils disent, on a été au courant de tels incidents, alors de diverses manières. Des fois même, ils l'ont dit cette année, les journalistes, des fois, vous nous faites découvrir des événements. Leur champ d'action est bien cadré, entre guillemets. Ils ne s'occupent pas de tout. Ils ne s'occupent pas des cyber-incidents du quotidien.
Oui, de monsieur et madame tout le monde, ils s'en occupent pas, quoi.
Voilà, c'est pas leur fonction. Il y a une autre organisation pour ça. L'ANSSI, c'est vraiment les gros événements.
Ok, donc on pourrait presque résumer en disant que c'est un petit peu une sorte d'agence de cybersécurité à la française, l'ANSSI,
oui.
Non?
Ah oui, c'est totalement ça. Moi, j'aime bien dire, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec le terme, mais c'est eux qui s'occupent de la cyberdéfense de la France, quoi.
Oui, faudrait voir s'ils sont d'accord avec ça, mais ça peut aussi bien résumer la chose. Et donc, ce panorama est comme un petit bilan, finalement, aussi de l'année 2023. Et du coup, parlons justement de cette année 2023. Quelles ont été les origines des menaces, déjà, pour 2023? Il me semble, parce que je l'ai lu aussi, que dans ce panorama, l'ANSSI présente notamment 3 origines de menaces.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'ANSSI ne s'occupe que de défense et ne fait pas ce qu'on appelle de l'attribution. L'attribution, c'est dire l'attaque vient de là. Ça, c'est un acte politique. En France, on ne fait pas trop d'attribution, on ne dit pas trop cette attaque, cette cyberattaque vient de telle origine. parce que techniquement, c'est compliqué et c'est aussi, voilà, un choix politique, comme je disais. Il n'empêche que, même si Vincent Strobel, qui est le directeur général de l'ANSSI, aime préciser ce point-là sur l'attribution, il n'empêche que ils utilisent des petites techniques, entre guillemets. Ils disent cette attaque venant de personnes, d'agents réputés d'eux. Mmh. Et c'est un peu par ces biais de langage qui font ressortir quelques pays. Donc, tu disais trois grands acteurs. En réalité, pour ce qui est des acteurs étatiques, on va dire que ce qui ressort le plus, c'est la Russie, ce qui ne surprendra pas forcément, la Chine. Donc, encore une fois, avec toutes les précautions de langage sur l'attribution directe et concrète. Donc, la Russie, la Chine, il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord aussi qui est mentionnée pour un cas, un épisode spécifique qui a été donné en exemple. Donc, voilà pour ce qui est de l'origine de la cybermenace étatique et pas que, parce que si on pense à la Russie, il y a notamment des groupes qui sont plutôt cybercriminels qui viennent beaucoup de la Russie, même si évidemment pas que.
Et qui pourraient donc, même s'il n'y a pas d'attribution, ça on l'a bien compris, mais qui pourraient être plus ou moins soutenus par moment par un acteur étatique aussi. Et justement, on va le faire tout de suite le lien avec le contexte géopolitique mondial, la guerre en Ukraine, en Israël, les tensions entre la Chine et les États-Unis. Bref, il y a énormément de conflits et de tensions dans le monde. Est-ce que ça joue sur, justement, les cybermenaces ?
Eh bien, il y a un conflit en particulier, vu que la Russie est un acteur particulier, soit du fait que une cybercriminalité y prospère, soit le fait que l'État en lui-même soit réputé très actif dans le domaine du cyberespace. C'est vrai que le conflit en Ukraine est très apparemment, visiblement, d'après ce qu'on nous a rapporté, se ressent dans les cyberactions. Là, on est un peu dans des conjonctures, mais il n'y a aucune certitude. Mais voilà, l'année dernière, en 2022, on constatait que les attaques par rançongiciel avaient enregistré une baisse significative, moins 46%. Il se trouve qu'on pourrait se dire que les personnes impliquées, les cybercriminels impliqués dans les ransomware étaient peut-être occupés à autre chose. Et évidemment, 2022 étant l'année de l'invasion de l'Ukraine, l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Les ransomware, d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, sont repartis à la hausse. Ils ont fait un plus 30% apparemment cette année. Et en plus, 30%, tous les chiffres que je donne, c'est des chiffres de l'ANSSI. Donc, ce n'est pas exhaustif. Il ne s'occupe pas de tout, comme on a dit au début.
Donc, c'est probablement plus, en fait.
C'est probablement beaucoup plus, oui, effectivement.
Je profite tout de suite que tu parles de ça pour aborder une question et te poser une question que je me suis notée aussi. C'est-à-dire, quels sont les types de menaces identifiées par l'ANSSI dans ce panorama ? Le type d'attaque, plutôt ? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de, tu as dit, de rançongiciel ? Est-ce qu'il est question plutôt aussi d'espionnage, je ne sais pas, de déstabilisation de vol de données ?
Pour le faire très simple, l'ANSSI utilise un peu trois catégories, de façon générale, qui vont être l'extorsion de fonds, donc plutôt du domaine de la cybercriminalité. Ça va être l'espionnage, donc ce qui est un peu le cœur de métier de l'ANSSI, ce dont l'élément, la catégorie dont ils sont les plus vigilants. Et la troisième partie, tu l'as mentionné, c'est la déstabilisation qui peut prendre plusieurs formes. On parlait de l'impact de la géopolitique. L'ANSSI rapportait cette année notamment que chaque soubresaut diplomatique entre l'Ukraine, la France, la Russie, il voyait une avalanche d'attaques par déni de service, donc qui vient plutôt d'activistes. Voilà, c'est des attaques par déni de service. Généralement, ça fait pas trop de mal. C'est le site qui est un site web qui est saturé de requêtes et donc qui finit par tomber avant de revenir. Et généralement, ça a pas trop d'impact. L'anecdote amusante, c'est qu'ils ont visé le CERTFR, donc qui est géré directement par l'ANSSI, et qui s'occupe de la veille sur les cybermenaces. Donc, ils ont fait un déni de service sur le site du CERTFR, qui a été en ligne 4 heures, et voilà.
Ah, ça a fonctionné quand même, c'est pas parce que c'est l'ANSSI qu'ils ont échoué.
Il y a des moyens de mitiger ces attaques, mais ce qui nous a été dit aussi, c'est que Il y a une certaine agilité parmi les cyberassaillants pour utiliser des techniques pour faire en sorte de contourner les barrières qui ont été mises. Bon, c'est un peu l'histoire de la cybersécurité depuis le début, hein. Dès qu'une barrière est érigée, on va essayer de la contourner. Mmh. Mais ça n'a pas de conséquences. Donc, les attaques par déni de service comme ça sont dans la catégorie déstabilisation. Mais dans cette catégorie déstabilisation, il y a des actes qui sont un peu plus préoccupants, qui vont relever du sabotage. En prenant le contrôle d'un système informatique, on peut saboter des installations industrielles. Le cas le plus connu date d'il y a maintenant quelques années. Un virus d'origine américaine et israélienne avait été introduit dans une centrale. Alors, je vais le dire de façon très très grossière, hein, mais dans une centrale nucléaire, en rentrant dans le système informatique, avait perturbé le fonctionnement du système dans son ensemble, et la centrale s'était emballée et ça avait causé des dommages très importants. Donc le sabotage fait partie de ces actes de déstabilisation qui sont à peu près graves, qui sont très graves. En Ukraine, il y en a eu beaucoup d'exemples. La France n'est pas touchée, visiblement, par ce genre de situation. Mais l'ANSSI a évoqué des cas de prépositionnement. Donc, c'est-à-dire que il y a des groupes qui se sont introduits dans des systèmes d'information, dans des systèmes informatiques de lieux, d'endroits qui n'ont pas été nommés forcément, et qui sont là pour rester en sommeil jusqu'à ce qu'il soit activé le jour J, quel qu'il soit.
C'est de la préparation à une attaque.
C'est de la préparation à une attaque. On crée le chemin pour rentrer dans un système, on s'y installe et on s'y fait le plus petit possible pour peut-être un jour faire des dégâts si on est pas repéré. Voilà. Et on y retourne de temps en temps pour voir si l'accès est toujours ouvert, si on n'a pas été découvert. Donc ça a été une des situations abordées lors de ce point sur le panorama.
Est-ce que de nouvelles menaces sont apparues selon l'ANSSI en 2023, des menaces qu'on ne voyait pas ou quasiment pas avant ?
C'est toujours difficile de parler de nouvelles menaces parce que il y a toujours un cas plus ancien qui était similaire ou qui a utilisé les mêmes techniques. Après, dans ce qui ressort d'un peu original, qui prend en importance, etc., il a été fait mention de la volonté de furtivité et des capacités de furtivité qui ont été mises en œuvre dans des opérations qui relèvent plutôt du domaine de la catégorie de l'espionnage, pour le coup. L'ANSSI a évoqué plusieurs exemples techniques, mais ils ciblent des équipements périphériques comme des routeurs, des VPN, des logiciels anti-spam qui sont un peu en dehors du système tout en étant dedans et du coup qui sont plus discrets de se positionner à cet endroit-là. Ils disent aussi que voilà, il existe des réseaux d'anonymisation, mais ce qui se passe, c'est que ces réseaux ont tendance à être de plus en plus mutualisés. Donc, en fait, si un réseau d'anonymisation est un peu identifié avec un groupe spécifique, donc il perd de son efficacité, mais s'ils sont mutualisés, bah on sait pas trop lequel s'en est servi. Il y a un peu ça pour donc cette volonté de furtivité. Ils ont aussi évoqué une très grosse diversification de l'écosystème cybercriminel. En fait, ils ont évoqué plusieurs cas de logiciels de ransomware qui ont fuité, dont le code source de ces ransomware a fuité sur Internet de façon plus ou moins volontaire. C'est devenu un peu des ransomware en open source. Du coup, ça a fait que certains ont pu s'en emparer et s'en servir avec moins de connaissances techniques qu'il est nécessaire pour créer ces logiciels, opérer. Ça demande des compétences techniques, mais un peu moindres. Et du coup, ça démocratise encore un peu plus ce genre de pratique, plutôt du fait de la cybercriminalité. On peut citer le groupe Conti.
Ah oui, très connu.
Très connu, qui s'est séparé au moment de la guerre en Ukraine parce qu'il y avait des Ukrainiens, enfin des pro-russes, et des pros ukrainiens dans le même groupe et qui se sont déchirés autour de ça au point que toute leur données internes soient publiées et dont le code source de leur ransomware qui peut être exploité.
En parlant de, tu parles de Conti, là, ça me fait penser à un autre groupe. J'aimerais qu'on l'aborde quand même. Lockbit, il a beaucoup fait parler Lockbit en 2023. Est-ce que il y a une multiplication des acteurs qui mettent à disposition les ransomware à d'autres acteurs? Tu parlais avant de la fuite de code source. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des acteurs, des groupes de cybercriminels comme Lockbit qui vont mettre à disposition des ransomware pour que d'autres s'en servent de manière beaucoup plus simple et que ça démocratise donc les attaques?
Bah, comme je disais déjà qu'il y avait eu des fuites, Lockbit a été concerné.
Lockbit a été concerné par les fuites.
Alors code source a fuité. Mais effectivement, mais ça, c'est pas un phénomène nouveau. On en parle, l'ANSI en parle depuis plusieurs années.
Ah, d'accord.
On entend parler depuis plusieurs années. C'est que c'est même un gros problème. C'est que tout l'écosystème ransomware est très structuré. C'est presque une filière industrielle qui ressemble à une filière classique et pas criminelle. Où il y a un partage des tâches entre des personnes qui vont créer le logiciel et puis ensuite qui vont le louer à des personnes qui vont le déployer. Lockbit, très clairement, Lockbit, ça désigne à la fois un groupe, ça désigne aussi un logiciel. Quand il y a une attaque Lockbit, ce n'est pas forcément le groupe en question qui a opéré cette attaque, c'est possible, mais des fois, ça peut être que leur logiciel a été utilisé par d'autres.
Ok.
C'est vrai que il est fait mention depuis, mais ça fait quelques années, d'une répartition des tâches. Il y a ceux qui vont faire le phishing, donc qui vont trouver la porte d'accès en piégeant des gens avec les mails vérolés qu'on connaît bien. Il y a ceux qui vont racheter cette porte d'accès pour se déployer, latéraliser dans le système d'information de la victime. Il y en a qui vont se spécialiser en négociation de rançon, etc., etc., etc. Tous les éléments de la chaîne sont sous-traités. Il y a énormément de sous-traitance en réalité.
On dirait vraiment une vraie industrie. Quand on parle, c'est...
C'est la chaîne de valeur d'une industrie tout à fait classique. C'est pour ça qu'on parle d'écosystèmes cybercriminels très matures, très organisés et en même temps très souples. Parce que donc on parlait de Lockbit et il y a eu un démantèlement, une opération internationale dont où la France a participé notamment, mais il y a eu une dizaine de pays plus d'impliqués. Ils ont été démantelés, leur site façade a été transformé avec de façon un peu spectaculaire, un peu à l'américaine, avec une page des organisations de police qui ont démantelé cette page. Mais on a été face à une problématique. Lockbit a déjà refait parler de lui, a déjà redéployé des attaques. Là, on parle en un mois. Hein. Tout ça se passe en février.
Depuis le démantèlement, Lockbit est déjà revenu sur le devant de la scène.
Exactement.
Oui, il traîne pas, oui.
En réalité, cette opération de police n'a pas été inefficace, mais elle est confrontée à une difficulté, c'est que ceux qui gèrent Lockbit, vraiment les têtes de ce réseau-là, sont en Russie. En ce moment, la coopération judiciaire avec la Russie, c'est pas forcément fameux.
Non, non, en effet, ouais, ça complique tout de suite la tâche.
Exactement. Donc, il est un peu impossible d'emprisonner les responsables de ça. Donc, en fait, l'opération de police et de justice, elle met vraiment en difficulté le groupe. Hein. C'est pas anodin, ça les ralentit, ça leur pose plein de soucis. Il y a une efficacité, mais ça ne met pas fin au problème. Ils vont revenir, ils sont déjà revenus. Voilà, il y a aussi un peu de vantardise entre guillemets, enfin d'exposition. On n'est pas mort, etc. Mais ils ont quand même pris très cher. Leur structure, tout a été mis en difficulté, si ce n'est détruit. Et du coup, ils repartent, mais ils vont repartir forcément moins fort, moins impressionnant, moins de capacité d'attaque, etc., etc., etc.
Ça les a quand même affaiblis, c'est ça qu'on va retenir. Et oui, l'opération de police, en effet, il y avait beaucoup de pays. Ça fait un sacré paquet. J'aimerais qu'on évoque rapidement une chose, pour terminer sur les attaques et les sources aussi, les risques. En 2023, en France, il y a eu une Coupe du Monde de rugby. Le pays se préparait déjà et se prépare toujours aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent cette année donc. Est-ce que ces grands événements ont un impact particulier sur les cyberattaques dans l'Hexagone? Est-ce que j'imagine, je te pose cette question parce que je pense qu'on peut déjà avoir une partie de la réponse à cette question vu qu'il y a eu la Coupe du Monde de rugby.
Oui, oui, oui. Et oui, c'est une bonne question parce que depuis le premier panorama, il me semble de mémoire que ça fait 3 ans qu'ils se livrent à ce genre d'exercice. Dès le premier panorama, on évoquait la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Pour une raison simple, c'est de gros événements. Donc, tous les projecteurs sont sur la France. Donc, c'est aussi des opportunités d'attaque, des opportunités de déstabilisation. Selon son but, voilà, c'est des événements qui sont sujets potentiellement à des attaques. Et donc, l'ANSSI évoque une préparation constante de ces événements depuis au moins 3 ans. Donc, comme tu disais, la Coupe du Monde de rugby, elle est passée. Il nous a été dit qu'il n'est pas ressorti de la compétition d'événements majeurs, significatifs ou propres à cette compétition-là.
Tant mieux.
Tant mieux, effectivement. Vincent Strubel a dit qu'il n'avait pas détecté de suractivité dans des actes malveillants cyber. En revanche, les Jeux Olympiques, pour le dire un peu trivialement, ça risque de ne pas être la même limonade. L'ANSSI, Vincent Strubel, le directeur général, a beaucoup insisté sur à quel point ils se préparent. Depuis l'été 2022, ils sont en contact avec des organisations qui n'ont pas forcément l'habitude de devoir d'être exposés à une cybermenace. On parle de fédérations de sport, on parle d'entreprises d'événementiel, de propriétaires de stades, de tous ces éléments-là qui sont pas les cibles les premières cibles qui viennent. Et donc, il faut acculturer, former à la cybersécurité, un peu tester leur défense, comment elles résistent, etc. Donc, l'ANSSI a évoqué 80 organisations identifiées comme stratégiques, donc qui ont fait l'objet d'un audit directement par l'agence, etc., etc. Et 300 ou 350, c'est dans cet ordre-là, d'organisations qui vont aussi jouer un rôle important pour ces Jeux Olympiques et donc qui ont la possibilité de faire des scans de cybersécurité et ont accès aussi à des solutions pour pouvoir mieux se défendre. Mais pour revenir sur la menace, pour en donner une idée, je prends un peu de précaution parce que là, pour le coup, ce sont pas des chiffres de l'ANSSI. C'est des chiffres d'un haut responsable d'Atos, Atos qui va être un des sous-traitants qui va s'occuper de la cybersécurité des JO. Il a évoqué, il me semble, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, 450 millions d'attaques, d'incidents, de cyberincidents. Le chiffre paraît énorme, mais je pense que il englobe beaucoup de choses qui sont diverses et d'importance et de gravité diverses. Je pense que le chiffre est là aussi pour choquer. Mais en tout cas, c'est le chiffre qu'il a mentionné avec une dynamique dont qu'il a évoqué, qui est assez préoccupante. C'est que tous les JO, il y a une dynamique de 8 à 10 fois plus d'incidents qu'aux JO précédents. Donc, potentiellement, on s'attend à 8 à 10 fois plus d'incidents que les 450 millions qui ont touché les JO de Tokyo. Donc, ça fait peur, dit comme ça.
Oui, c'est pas fait pour rassurer.
Voilà. Bon, c'est des chiffres, encore une fois, qu'il faut prendre avec un peu de pincette, je pense. Hein, ça, c'est mon opinion. L'ANSSI n'utilise pas ces chiffres-là, ne les mentionne pas et ne fait pas vraiment de pronostics. Mais elle pronostique qu'effectivement, il y a un gros risque qu'il y ait beaucoup plus d'attaques à ce moment-là. Et donc, qu'il faut se préparer. Et Vincent Strubel insiste beaucoup là-dessus, qui se prépare depuis un certain temps et qui continue à le faire là dans la dernière ligne droite avant la compétition.
Finalement, on s'aperçoit avec ce panorama que la cybermenace de manière globale continue d'augmenter à l'approche en plus des Jeux Olympiques. Donc ça explique aussi les risques accrus avec cet événement-là. On vient d'évoquer justement ces risques-là et que les entités qui risquent aussi d'être visées pendant les Jeux Olympiques. Il y en a d'autres, j'imagine, qui sont régulièrement visés, qui seront en 2024 toujours visés, qui l'étaient en 2023. Je pense à des administrations publiques, je pense à des infrastructures extrêmement importantes comme les hôpitaux. On a beaucoup parlé l'an passé des attaques des hôpitaux en France, mais aussi aux TPE, PME, aux grands groupes. Quel est le profil par excellence des victimes?
C'est une bonne question. L'ANSSI ne donne pas de nom de victimes, sauf s'ils ont été mentionnés dans la presse, si c'est en source ouverte, donc accessible à tout le monde. En revanche, il faut une typologie qui n'a pas trop changé des profils des victimes, une typologie qui n'a pas énormément évolué dans son top 3 depuis 2020, qui vont être donc tu les as mentionnés hein, pour l'essentiel, les TPE, PME, ETI. Là, ils représentent 34% des cyberincidents qui ont été des rançons logicielles qui ont été touchés par les rançons logicielles. Donc, ils sont en tête et de loin, c'est les premières cibles. Ensuite, il y a les collectivités locales et territoriales. On en entend parler des villes, la métropole de Marseille, ça date d'il y a 1 ou 2 ans. Voilà, des villes comme ça qui se font attaquer par des rançons logicielles et dont les services se retrouvent bloqués et inaccessibles. Donc, ça reste un élément important, je disais 24% du coup, de l'ensemble. Et les établissements de santé. Les établissements de santé où évidemment ça fait partie des cas les plus graves puisque de toute façon un rançon logiciel, vu que ça paralyse le système informatique, les situations où ça va être le plus grave, ça va être ceux où il y a un besoin de continuité et donc dans le soin évidemment il y a un besoin de continuité du suivi des patients, notamment des patients en réanimation, etc. Ça peut être très grave. Les établissements de santé sont une cible qui font beaucoup la une et qui sont 10% des cas de rançon logicielle dont a entendu parler l'ANSSI, ce qui est toujours inquiétant. On peut noter aussi une dynamique assez nouvelle, assez inédite, qui sont les associations. Les associations étaient assez peu touché l'année dernière. Ça a fait un petit bond en avant. Ils sont passés de 4% des incidents relevés par l'ANSSI à 9%. Donc, ce qui est la plus grosse augmentation de mémoire, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la plus grosse augmentation dans ces cibles.
En parlant des hôpitaux et des administrations publiques, si on élargit vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mauvaises pratiques, même pour les entreprises qui sont touchées, les TPE, PME aussi finalement, des mauvaises pratiques, un manque de formation, de sensibilisation et aussi un problème de modernisation des infrastructures informatiques.
C'est un peu compliqué parce que là, ça va être un peu plus mon avis. J'ai pas envie trop de lancer la pierre aux victimes, entre guillemets. Mais effectivement, la cybersécurité, ça demande des moyens, ça demande de l'argent, ça coûte de l'argent. Et c'est vrai que là où il y a une part de responsabilité, notamment dans les PME, TPE, c'est que c'est une dépense généralement qu'on ne fait pas, où on se dit c'est pas grave, il va rien se passer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, évidemment. Pour les hôpitaux, bon, on sait à quel point il manque de moyens de tous les côtés, donc forcément, ça fait des victimes idéales. Surtout que les rançons logicielles, quand on parle de rançons logicielles, dans beaucoup, la plupart des cas, c'est de la cybercriminalité. Donc, ça va être des attaques qui sont opportunistes. Il peut y avoir des attaques très ciblées. C'est de la chasse au gros gibier. La formule est anglaise à la base, mais je fais une traduction. Où la victime est tout à fait ciblée, on sait qu'elle a les moyens, on va la cibler pour avoir une grosse rançon. Mais ce qui reste dans la majorité des cas, c'est plutôt on toque à toutes les portes, dès qu'on voit une ouverture, on se glisse dedans et puis on voit ce qu'on peut ramener. Et en fait, c'est de ça dont sont victimes les hôpitaux, même les TPE, PME et les collectivités, c'est que ça reste... Voilà, des victimes, victimes d'opportunisme cybercriminel.
Oui, mais c'est, enfin, sans leur jeter la pierre, notamment aux hôpitaux, mais c'est quand même les hôpitaux, par exemple, mais comme aussi des administrations publiques, hein, des endroits où il y a des données extrêmement sensibles, où depuis des années, on sait que ça peut être une cible particulière pour les hackers, les pirates. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a encore un manque de préparation, un manque de cybersécurité.
Bah, on y revient, hein, mais il y a un manque de moyens, de toute façon. Et il y a quand même des choses qui sont faites. De mémoire, l'ANSSI a un plan qui s'appelle le plan CARE, qui justement vise à augmenter de façon générale le niveau de cybersécurité de tous les hôpitaux. CARE, évidemment, un acronyme, mais évidemment bien choisi. Il me semble que Vincent Strebel a évoqué le cas d'une cyberattaque qui a touché l'hôpital de Rennes. Et voilà, il expliquait qu'il y a un acteur qui opérait un ransomware, qui est rentré dans l'hôpital, mais qui a été détecté juste avant le blocage du système. Et que du coup, la situation de l'hôpital a été précaire et en difficulté pendant plusieurs jours, mais qu'ils ont réussi à entraver l'attaque et que ils n'ont pas subi le gros de l'attaque qui, pour le coup, peut avoir des impacts pendant des semaines, des mois, parfois jusqu'à 18 mois. Enfin, voilà, ça peut être énorme. Là, ils ont réussi à la repérer et à la contrer suffisamment tôt pour que ça leur pose des problèmes pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc, il y a des plans de l'ANSSI qui visent à réduire l'exposition des établissements de santé. Il y a évidemment des bonnes pratiques de façon générale, des actes de sensibilisation, etc. Un gros travail là-dessus pour les administrations et les collectivités. C'est un gros travail pour les TPE-PME et les collectivités. Il y a un maillage du territoire qui doit être beaucoup plus important. Donc, il y a ce travail qui est en cours pour être au plus proche des victimes potentielles. On peut aussi parler d'évolutions sur le plan réglementaire. Il y a plusieurs normes européennes qui arrivent, sont déjà adoptées, sont en cours d'adoption, pas encore mises en application, etc., etc. Pour n'en citer qu'une, mais qui est, selon moi, la plus importante, c'est NIS 2. Mm-hmm. Donc ça, c'est une directive qui a déjà été approuvée et qui doit être mise en œuvre. Et NIS 2, en gros, ça exige un niveau de cybersécurité minimum pour un grand nombre d'organisations dans divers secteurs, privés, publics, etc. Ça élargit beaucoup les obligations de cybersécurité à différentes entités. Et donc, ça demande un accompagnement, etc., pour être mis en œuvre normalement fin octobre 2024, ça rentre en application. Vincent Strebel dit que c'est un moyen de passer à l'échelle. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de l'ANSSI, il faut passer à l'échelle. C'est-à-dire que les grosses structures, ça va à peu près. Je dis un nom au hasard, mais Airbus, leur cybersécurité, elle est robuste. Le problème, c'est que la cybersécurité du sous-traitant de Airbus, elle est peut-être moins robuste. Et c'est par lui que ça va passer, c'est par cette porte d'entrée. Donc, il faut passer à l'échelle, il faut que des structures plus petites aient les moyens d'avoir accès à des offres de cybersécurité. Le problème, c'est que les offres de cybersécurité sont, comme je disais, coûteuses et donc pas forcément accessibles aux bourses de plus petites entreprises. Mais ça progresse doucement, ça progresse doucement pour que tout le monde se mette en phase et tout le monde ait un niveau minimum de cybersécurité. NIS 2 doit y participer.
Oui, donc on retiendra qu'il y a bien des plans malgré ce que j'ai dit. Il y a quand même des plans, il y a des progrès, c'est important de le noter. On terminera avec cette question. Je sais que tu n'es ni chercheur en cybersécurité, ni Madame Irma, mais tout de même, tu as une expertise à nous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce panorama comme enseignement pour 2024? Qu'est-ce que ça dit de 2024? J'imagine bêtement que ça dit que finalement, oui, les cyberattaques, les cybermenaces vont continuer d'augmenter, surtout avec les JO.
Oui, oui, bien sûr. Expertise, je ne sais pas. En tout cas, j'observe de ma position de journaliste. C'est marrant parce que pendant au cours de la présentation du panorama, il y a une question que j'ai trouvée très pertinente d'un confrère qui disait, mais en fin de compte, depuis 3 ans qu'on vient vous voir pour ce panorama, tous les ans, ça augmente. La cybermenace sur tous les plans, criminels, espionnage, déstabilisation, ça ne fait qu'augmenter. Et la question était amusante, mais surtout très pertinente. Bon, Vincent Strobel a répondu que non, regardez, il y a eu une baisse des rançons logicielles l'année passée. Bon, qui est revenu, mais il y a eu une baisse l'année passée. On reste quand même effectivement dans cette dynamique d'augmentation constante. Maintenant, je me sens presque bête de le dire, mais on est dans un monde ultra numérisé et qui ne fait que se numériser d'autant plus. Donc, ça fait que multiplier les zones potentielles d'attaque, la surface d'attaque. Ça ne fait que l'intensifier. Donc, il n'y a aucune raison que ça baisse. La cybercriminalité, bah, manifestement, ça reste très profitable suffisamment pour que ça investisse, pour que l'écosystème gagne en maturité, il est déjà très mature. Donc, maintenant, c'est voilà, de l'opportunisme. On récolte tant que le niveau de cybersécurité en face n'est pas suffisant. Donc, il n'y a aucune raison pour que ce domaine-là de la criminalité baisse. L'espionnage, les États se sont toujours espionnés à travers l'histoire. Il y a le cyberespace offre un espace supplémentaire pour pratiquer l'espionnage. Je vois pas de raison que les États s'en privent, en réalité. Parce qu'on a parlé des acteurs offensifs qui nous agressent et tout, qui sont bien repérés. La Chine, la Russie, l'Iran, un peu. Mais sans avoir d'informations précises à ce sujet, je ne serais pas étonné que les États-Unis se livrent à de l'espionnage de masse.
Oui, bien sûr. Même la France,
évidemment, on se souvient de l'affaire Snowden pour ce qui est des États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la France aussi, évidemment. Donc, l'espionnage continuera, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est du sabotage, alors l'activisme, pareil, aucune raison que ça baisse, c'est un moyen de faire entendre sa voix. Voilà, je crois que c'est Vincent Strobel disait, bah c'est l'équivalent de bloquer une route, c'est embêtant, mais ça casse rien. Eh bien, faire un déni de service contre un site web, le faire tomber quelques heures avant qu'il revienne, sans qu'il se passe d'autres choses que ça, ça peut devenir une modalité d'action, de contestation pour des problématiques en tout genre, en l'occurrence utilisées par des activistes russes, pro-russes en tout cas, mais on l'a vu utilisé par d'autres mouvements. Pour ce qui est du sabotage, du prépositionnement, de prépositionnement en vue de saboter, etc. Ça reste des actions très lourdes qui demandent beaucoup de moyens. Mais là aussi, ça demande juste un investissement. Il y a des États qui peuvent se dire que ça vaut le coup de commettre des actes aussi offensifs.
Donc ça va augmenter.
Pour résumer, il n'est pas surprenant que oui, la menace continue à augmenter. Le seul moyen de l'entraver un petit peu, c'est quand il y aura un passage à l'échelle, une mise à niveau, une cybersécurité qui sera d'un niveau global beaucoup plus importante. Mais ça reste un jeu de chat et de la souris. On dresse un mur, le cyberassaillant va le contourner. Donc, c'est un perpétuel jeu du chat et de la souris. Mais déjà, en faisant un niveau minimum de sécurité de façon assez globale, on ferme beaucoup de portes aux attaques opportunistes, au phishing, à ces mails vérolés qui sont envoyés en masse. Ça bloquera déjà tout ce qui est action opportuniste. Mais il faut y venir, ça prend du temps. NIS 2 sera complètement appliqué. Ce ne sera pas le cas avant 2025, le temps que tout se mette en place. Donc, tout ça prend du temps. Donc, la menace ne fera qu'augmenter. C'est pas un pronostic très difficile, pour le coup.
Et puisque ça prendra du temps, on refera sûrement un point un jour là-dessus pour faire un nouvel état des lieux et un nouveau bilan.
C'est un sujet très très vaste qu'on ne fait qu'effleurer de toute façon.
En effet, il y a toujours de nouvelles choses et beaucoup de nouvelles choses à dire. Mais on retient que ça progresse malgré tout. Il faut aussi être positif. Ça fait du bien de l'être de temps en temps. Merci pour ta présence dans cette émission, Benjamin.
Merci à toi pour l'accueil.
Et je tiens également à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leurs écoutes et leur fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous laisser notes et commentaires. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.